Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Il partage la vie des humains depuis plus de 10 000 ans, mais nous sommes loin d'avoir tout compris à leur sujet. Les chats restent des animaux bien énigmatiques. Que se passe-t-il dans la tête de ces petits félins? Comment perçoivent-ils le monde? Comment considèrent-ils leur maître? Et que savent les scientifiques de leur capacité cognitive? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec l'éthologue Jessica Serra. Des secousses sismiques enregistrées sur Mars qui révèlent les dessous géologiques de la planète rouge et des chercheurs aux quatre coins du monde qui se mobilisent face à la flambée épidémique du coronavirus Covid-19. Nous en parlerons dans la revue d'actu de la semaine vers 15h40. En deuxième heure, nous partirons avec le médecin anthropologue Philippe Charlier à la découverte de rituels pratiqués dans des cultures très différentes, de Madagascar au Pérou en passant par les îles Samoa ou la France. Et en toute fin d'émission, désert infernaux, montagnes inaccessibles et zones interdites, nous partirons explorer quelques-unes des terres les plus sauvages de la planète en compagnie d'Aude de Tocqueville qui s'est amusée à les répertorier dans un atlas. Voilà pour le plan de vol de cette émission, réalisée par David Le Prince et préparée par Thomas Lehété et Claire Tesser.
France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé.
La pyramide à un degré de Saqqara, avec tout ce qu'elle représente en elle-même, n'est en fait, comme toutes les autres pyramides, que la partie apparente de ce qu'on pourrait appeler un iceberg de pierre dans l'océan de sable du désert. Et l'on vient justement d'y découvrir une des curiosités de l'archéologie égyptienne, les chats momifiés. Différentes galeries se perdent dans tous les sens, et des centaines, peut-être des milliers de chats momifiés sont entassés là dans leurs sacs de toile.
C'était en fait des animaux qui participaient de toute une conception religieuse et on les enterrait plutôt près de leur déesse, la déesse Bastet, qui avait un temple juste là-haut.
Finalement, les chats domestiques d'aujourd'hui, eh bien peut-être au fond, ne sont-ils que des dieux déchus.
Découverte de momies de chats en Égypte. Nous étions en 1982. Bonjour Jessica Serra.
Bonjour.
Vous êtes éthologue, spécialiste de la cognition animale et vous venez de publier « Dans la tête d'un chat » aux éditions Humaine Science. Alors cela fait maintenant des millénaires que notre espèce cohabite avec ces petits félins. La preuve avec ces momies de chats découvertes en Égypte dans la pyramide de Saqqara. Que sait-on de la place des chats dans l'Égypte antique?
En fait, on parle de l'âge d'or du chat, tellement le chat était adoré par les Égyptiens. Il avait réellement une place unique au sein de la société, puisque c'était un animal d'abord qui était très respecté, qui était représenté par la déesse Bastet, qui était une déesse à tête de chat, qui incarnait la protection du foyer, la maternité. Et cette déesse, elle était adulée du peuple. Par exemple, on sait que dans la ville de Bubastis, on avait pas loin de 700 000 pèlerins qui se réunissaient chaque année pour honorer leur déesse à tête de chat. Au-delà de ça, le chat avait une place très très particulière puisque lorsqu'il mourait, notamment, la famille de ce chat-là marquait le deuil et exprimait ce deuil pendant une période qui pouvait aller jusqu'à 70 jours. Les propriétaires d'ailleurs de ce chat se rasaient même les sourcils. Donc c'est dire que finalement on n'avait pas honte d'aimer cet animal. Mmh. On momifiait, on leur offrait cette vie après la mort parce que justement on pensait qu'ils incarnaient une part de divinité.
Ouais. Ça allait même jusqu'à la momification de souris pour qu'ils aient de la nourriture dans l'au-delà.
Exactement, parce que la momification, c'était effectivement offrir une seconde vie après la mort du défunt et tant qu'à faire, lui donner un peu de nourriture aussi, c'est pas plus mal.
Alors, vous racontez que des ennemis des Égyptiens, comme les Perses, ont su se servir de l'adoration qu'ils avaient pour les chats de façon assez perfide pour gagner des batailles.
C'est le roi Cambyse II qui essayait de conquérir cette part de l'Égypte et qui, du coup, eut cette idée incroyable d'attacher des chats au bouclier de ses soldats et devant ce spectacle effroyable, les Égyptiens n'ont pu rien faire en fait, désemparés par l'idée de pouvoir faire du mal à des chats. Et donc la ville égyptienne tomba aux mains de ce roi pour le moins sauvage. Et l'histoire nous montre qu'effectivement le statut du chat était tellement particulier à cette époque qu'il a pu même changer le cours de l'histoire de l'humanité.
Alors les momies de chats égyptiennes ont 3600 ans, mais la domestication du chat est plus ancienne encore.
Tout à fait. Pendant longtemps, on a cru que les prémices de la domestication dataient de l'Égypte antique parce qu'on avait trouvé tout un tas de vestiges, notamment les momies de chats, mais également des peintures murales de chats qui nous faisaient estimer cette domestication à il y a 3600 ans. Mais on a eu à la fois des recherches en paléontologie qui nous ont permis de remonter, si vous voulez, un peu le cours du temps, et une découverte majeure qui a changé notre perception du timing de la domestication, qui était la découverte de Jean-Denis Vigne du Muséum d'Histoire Naturelle et de son collègue Jean Guilaine, qui ont découvert une sépulture d'un jeune être humain enterré avec son chat, qui montrait l'existence en tout cas d'un lien entre l'homme et l'animal qui datait d'il y a 9500 ans. Donc en fait, les prémices de la domestication, on les estime à il y a 10 000 ans, ce qui est donc beaucoup plus ancien que les 3500 ans qu'on estimait auparavant.
Et qu'est-ce qui a conduit les humains à domestiquer les chats? Est-ce qu'on a une idée en fait du scénario, de la façon dont ça s'est passé?
On pense, si vous voulez, qu'à un moment donné, lorsque l'homme est passé de son statut de chasseur-cueilleur à son statut d'agriculteur, donc qui commença à maîtriser l'agriculture, forcément il a commencé aussi à entreposer des stocks de grains notamment, qui ont attiré tout un tas de rongeurs. Hein. Et notamment parmi ces rongeurs, on avait la souris domestique. Je le précise dans mon ouvrage qui n'a jamais été domestiqué, oui. Hein, qui ne porte pas bien son nom, puisque c'est une souris commensale. En fait, c'est une souris, si vous voulez, l'être humain n'a jamais entrevu d'intérêt à avoir des souris chez lui.
Ouais. Elle ravageait les récoltes. Commensale, ça veut dire qu'en fait, elle s'invite à notre table. Exactement. Elle mange notre nourriture.
Voilà, c'est ça. Elle mange notre nourriture. En contrepartie, l'homme, lui, il n'a pas grand-chose en contrepartie de cela. Et finalement, cette abondance de rongeurs a attiré aussi une abondance de prédateurs. Et parmi ces prédateurs, on avait un petit félin au rythme rapide qui était redoutable d'un point de vue efficacité et tuerie des rongeurs.
Donc un chat sauvage à ce moment-là.
Un chat sauvage, tout à fait, qui finalement a tout de suite montré son intérêt auprès des humains en termes d'efficacité, encore une fois, de la chasse de ces rongeurs. Les humains se sont dit, c'est formidable. On a une chasse naturelle de ces rongeurs, donc on va tolérer la présence de ces animaux à proximité de nos habitations. Mais au-delà de la tolérance, il est probable qu'on ait eu une série d'apprivoisements. On sait qu'il est beaucoup plus évident d'apprivoiser des espèces lorsqu'elles sont, dans notre langage, on appelle ça la période sensible, c'est-à-dire entre la naissance et le sevrage. Donc on pense qu'en fait, on a eu ces peuples qui ont apprivoisé des petits chatons. Et que par des sessions d'apprivoisement plus ou moins bien réussies, on a donné naissance aussi à des êtres, parce qu'après on laissait ces chats-là se reproduire aussi, à des êtres qui avaient des caractères plus dociles pour arriver aux chats domestiques d'aujourd'hui.
Ouais. C'est-à-dire qu'on a sélectionné en fait les tempéraments, les caractères de chats qui s'entendaient le mieux avec les humains. Ils ont servi à protéger les récoltes, ils ont aussi empêché que certaines maladies ne se propagent en tuant ces rongeurs qui les transmettent. Mettaient. Autrement dit, ils ont joué un rôle dans le développement de l'agriculture, dans la mise en place de toute notre civilisation.
Exactement, j'ai tenu à souligner ce point parce que à son échelle, le chat a contribué à la naissance de nos civilisations. On peut tout à fait imaginer que sans cette aide-là de la chasse aux rongeurs, le peuple qu'on appelait les Natoufiens, qui incarnait réellement ce statut de premier cultivateur, aurait été finalement vite assailli par ces rongeurs. Les céréales auraient été dévastées et que finalement, sans stock de céréales, on ne tient pas bien longtemps. Et l'agriculture, peut-être, n'aurait pas pris son essor de la même manière.
Ce scénario de la domestication du chat est-il très différent de celui de la domestication du chien, qui est survenu bien plus tôt dans l'histoire, il y a 30 000 ans. C'était plus pour accompagner les chasseurs dans leur chasse. Est-ce que c'est très différent, ce qui s'est passé
avec
le chien?
C'est extrêmement différent. Vraiment, les deux processus sont même, je dirais, presque pas comparables, à tel point que certains scientifiques hésitent à utiliser le terme domestication chez le chat, tant le processus de domestication observé chez lui est différent de toutes les autres espèces domestiquées, d'ailleurs pas seulement le chien, mais toutes les autres espèces domestiquées.
Parce qu'il garde une grande autonomie dans cette domestication, ou est-ce que c'est que la domestication n'est pas encore complètement aboutie par rapport
à
celle du chien?
Alors, je dirais un peu des deux. L'autonomie, il la garde parce que c'est un animal qui a préservé beaucoup de ses caractéristiques sauvages. D'abord, c'est un animal à qui l'on n'a pas demandé de coopérer directement avec l'homme. Par exemple, quand on a commencé à domestiquer le chien, on attendait lui qu'il coopère très rapidement avec l'être humain, et ses facultés de coopération dépendaient de facultés d'attention. Donc finalement, on a vite donné naissance à des races spécialisées dans certaines fonctions qui étaient extrêmement utiles à l'être humain. Donc on pense aux chiens de garde, aux chiens de chasse, etc. Lorsqu'on s'intéresse au chat, finalement, on attendait de lui simplement qu'il fasse ce qu'il savait déjà faire, c'est-à-dire chasser les rongeurs. Donc il n'y avait pas une attente sur la réponse à des ordres, et on ne l'a pas sollicité sur ce registre-là. En revanche, la domestication, elle a quand même eu comme impact de modifier considérablement les comportements de nos chats d'aujourd'hui versus les comportements de leurs ancêtres sauvages.
Alors après cette domestication, cette déification chez les Égyptiens, ensuite les chats ont été exportés vers l'Europe, et au cours de l'histoire, leur image s'est sacrément ternie.
Alors complètement, bon, ça a mis un peu de temps quand même, parce que entre temps les Grecs et les Romains les ont quand même appréciés. Les débuts du christianisme, on n'était pas encore sur une attaque frontale des chats, mais en revanche, on va dire au Moyen Âge, dans les années 1200, on a un pape, Grégoire IX, qui rédigea une bulle pontificale dans laquelle il évoque que le diable lui-même s'incarne dans un chat noir et se livre à des actes sexuels avec une assemblée d'hérétiques. Et à ce moment-là, va s'opérer un tournant majeur dans l'histoire du chat. C'est-à-dire que cette tête qui avait été aimée, parfois juste tolérée, mais en tout cas acceptée au sein des sociétés humaines, va être réellement détestée, méprisée.
Mmh. Détestée au point d'être persécutée. Hein. Vous racontez des scènes terribles où les chats sont brûlés vifs, où on les jette du haut de falaises.
C'est l'animal à abattre, on l'affuble de tous les maux. Et finalement, vont se mettre en place toute une série de tortures absolument... horrible pour cet animal, comme pour les possesseurs de ces animaux d'ailleurs, hein, parce que tout possesseur de chat noir, par exemple, était immédiatement accusé de sorcellerie et soumis aux pires tortures, et son animal aussi. Et finalement, ces croyances liées à l'Église vont s'ancrer dans la superstition et dans les fêtes populaires qui existent pour certaines encore aujourd'hui. Alors, on torture plus les chats, mais on prend soin de les remplacer par des peluches, etc. Mais pour dire combien ça a perduré dans le temps, on en a notamment les feux de la Saint-Jean, qui sont décrits par de très très nombreux auteurs de l'époque. Donc, on place des chats dans un panier au-dessus d'un bûcher. Et là, toute la foule se positionne autour. C'est une grande fête, hein, c'est très joyeux pour la foule d'entendre les cris horribles de douleur, hein, de ces animaux, parce qu'on croit qu'on est en train de chasser les esprits maléfiques qui se sont incarnés dans ces chats.
Alors, on retrouve d'ailleurs ces croyances dans des superstitions actuelles qui ont encore cours sur les chats noirs, où on pense qu'ils portent malheur. Alors, ces persécutions ont duré jusqu'au XVIIe siècle, puis les chats ont reconquis le cœur des humains. Aujourd'hui, rien qu'en France, on compte pas moins de 11 400 000 chats domestiques. Et ces chats continuent d'être assez énigmatiques, même pour ceux qui les côtoient quotidiennement. Écoutez comment l'écrivain académicien Frédéric Vitoux, auteur du dictionnaire Amoureux des chats, s'interroge au sujet de son animal de compagnie.
J'ai le chat en face de moi, il me regarde, très bien. Et puis soudain, il regarde derrière moi, où il n'y a rien d'important naturellement. C'est ce qui est formidable, c'est que son regard me transperce comme si je n'étais rien, comme si j'étais transparent. Et d'un seul coup, il est en arrêt à contempler un point invisible, comme s'il y avait derrière moi un extraterrestre, comme s'il y avait une ombre, un fantôme, une absence de la plus redoutable fascination. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui le fascine que moi je ne vois pas? Et d'un seul coup, le chat, par justement ses perceptions qui sont pour nous extrasensorielles, mais qui ne sont pour lui sensorielles, sans doute, ou métaphysiques. En tout cas, ce chat nous donne l'illusion d'une sorte de totale vacuité de ce que nous sommes, quoi. Et le chat nous dit, t'es rien, quoi. Enfin, moi, je vois des trucs que tu vois pas, je pense à des choses que tu ne penses pas. Et on a l'air comme ça d'un minable, d'une sorte de présence comme ça, argileuse, engluée dans des sensations médiocres, dans des perceptions limitées. C'est assez vertigineux, quand même.
L'écrivain Frédéric Vitoux dans Les Nuits Magnétiques de France Culture en 1997. Jessica Serra, il se sent minable devant l'extrasensorialité de son chat. Qu'en pensez-vous?
Ben je comprends ce qu'il peut ressentir, ayant moi-même des chats et puis ayant écrit cet ouvrage justement sur les sensorialités du chat. En fait, ce qu'on oublie trop souvent, et même parfois les éthologues, hein, et on essaie de se le rappeler en permanence, c'est que chaque espèce animale a son monde propre. C'est ce qu'on appelle l'umwelt, en fait. Donc chaque espèce animale va capter les informations de son environnement à l'aide de ses propres sens. Mmh. Et chez le chat, on est sur une espèce absolument incroyable parce qu'on a des sensorialités qui sont extrêmement sophistiquées. Il évolue dans une dimension presque parallèle à la nôtre.
Ah oui.
Parce qu'il voit des choses qu'on ne voit pas, il entend des sons qu'on n'entend pas. Et finalement, quand on a du mal à comprendre le comportement de notre matou, c'est aussi parce que ses sens sont différents des nôtres.
Alors par exemple, la vision, hein, vous êtes très concrète, hein, on sait que les chats ne voient pas comme nous. Déjà, ils voient dans l'ultraviolet.
Alors en effet, nous, on est incapables de voir la lumière ultraviolette et on a découvert qu'ils sont capables de voir ce monde en fait invisible à nos yeux. Alors il y a tout un tas d'hypothèses parce que c'est une découverte assez récente en fait, hein, donc on ne sait pas grand-chose encore, si ce n'est que la lumière ultraviolette, elle est utilisée par beaucoup d'animaux différents et qu'elle permet notamment de voir réellement les sécrétions biologiques notamment qui sont émises. Alors on peut imaginer que chez le chat, ce qui va être pertinent pour lui, c'est de voir les sécrétions biologiques laissées par d'autres congénères, par des rongeurs, par ses proies, pour mieux les tracer, pour mieux les
traquer. C'est-à-dire que l'urine se voit, par exemple, dans l'ultraviolet. Donc, il faut imaginer que eux, dans un jardin, ils voient des traces d'urine.
Voilà, je pense qu'il y a un mélange, en fait, si vous voulez, d'indices olfactifs et visuels. Et ces indices visuels, probablement, se font par cette perception de l'ultraviolet.
Et puis, ils ont, dans la pénombre, là où nous ne voyons plus rien, ils ont, grâce à des yeux particulièrement pourvus, ils arrivent à voir les choses que nous voyons.
Oui, alors
pas.
C'est grâce à en fait une petite membrane qui s'appelle le tapetum lucidum, qui est située à l'arrière de leur rétine, qui est fantastique parce que, alors déjà, c'est ce qui ça explique, parce qu'à chaque fois on me dit mais pourquoi les yeux de mon chat sont phosphorescents dans la nuit. C'est grâce à cette membrane en fait. Et cette membrane, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va capter la lumière de manière beaucoup plus intense. C'est ce qui va permettre au chat, dans l'obscurité, de percevoir un monde de détails. Pas autant qu'à la lumière du jour, mais il voit très très bien dans l'obscurité.
Alors ils ont un odorat aussi très développé, plus développé que le nôtre. En revanche, concernant leur goût, vous dites qu'il n'est pas si fin que ça, le goût du chat. Pourtant, on les associe facilement à des gourmets. Ce n'est pas tant le cas que ça, alors.
Oui, parce que leur, ce qu'on appelle les bourgeons gustatifs qui sont situés sur la langue, eh bien, ils en ont très peu, notamment si on le compare à l'être humain. Donc, ils ont une sensibilité gustative qui est finalement assez limitée. Mmh. Ils ont également perdu la saveur sucrée.
Ils ne sentent pas le sucre.
Non, ils ne sentent pas le sucre. Et ça, c'est quelque chose qui a été perdu, j'imagine, il y a quelques milliers d'années au cours de l'évolution. Tout simplement parce que c'est pas utile pour ce prédateur qu'il est, hein. Il n'a pas besoin de sentir la saveur sucrée. Il sent toutes les autres saveurs, mais pas de manière aussi fine que nous. Mmh. Pourquoi ils sont capables de discriminer aussi bien les aliments? C'est essentiellement sur des indices olfactifs. C'est-à-dire que l'animal va renifler son aliment de manière assez longue s'il ne le connaît pas, par exemple. Et lorsqu'il va le mettre en bouche, alors évidemment, il y a quand même la gustation qui rentre en jeu, mais il va évaluer, il va jauger cet aliment aussi suivant tout un tas d'autres facteurs comme la taille de l'aliment, la facilité de mastication.
Et si on a l'impression qu'il est parfois difficile, fin gourmet, que certains plats tout d'un coup ne lui plaisent plus, c'est parce qu'il est capable de sélectionner et d'équilibrer son repas quand il a le choix?
Oui, tout à fait. Il y a une étude scientifique là-dessus. Il est capable d'équilibrer très très bien ses choix alimentaires de manière, on va dire, innée. C'est-à-dire un taux de glucides, de lipides, de protéines extrêmement, je parle de coach diététique, il n'en a pas besoin. Ouais. Alors c'est vrai pour la majorité des chats, sauf ceux évidemment qui ont des problèmes de comportement alimentaire et qui sont en surpoids. Attention, pour cela, il va falloir effectivement les limiter dans leur consommation alimentaire.
Que savent les scientifiques des capacités cognitives des chats? En quoi l'intelligence des chats diffère-t-elle de celle des chiens? C'est ce que nous allons voir avec vous, Jessica Serra, dans la suite de cette émission. Très bel après-midi à l'écoute de France Inter.
France Inter.
C'est un chat, comment dire, qui est très particulier. Il a son caractère et on ne peut pas l'obliger à manger quelque chose.
Du vent dans les synapses.
Il est très joueur, il est beaucoup joué. Il m'a déjà griffé là, là, partout. Il est très cocasse.
Daniel Fievé.
Yeah.
Queen, c'était Cool Cat sur France Inter.
Du vent dans les synapses.
Mais bon, je vais pas vous faire un cours de druidisme, mais là, c'est une semaine consacrée à l'esprit du chat, voilà.
Daniel Fievé.
En ouvrant sa porte, l'autre matin, Madame Martinet, qui habite à Tannay, dans la Nièvre, a découvert un chat et elle a immédiatement reconnu Gribouille, un chat qu'elle avait donné à son voisin qui était parti en Allemagne il y a 2 ans. Le chat avait disparu au bout de 3 mois. Il avait tout simplement repris le chemin de sa maison et il lui a fallu 21 mois pour parcourir les 1000 kilomètres qui séparent Stuttgart de Tannay.
Dimanche dernier, on a vu arriver un chat dans un piteux état, très très maigre, les yeux et puis le nez plein de pus. Et puis ma foi, il était couché devant ma porte de cuisine. Et aussitôt que j'ai ouvert la porte, il est arrivé. Et puis alors, on a dit, ça doit être Gribouille. Alors au nom de Gribouille, et ben, ma foi, il est venu. Et alors sa mère, ma chatte, elle est allée le sentir. Elle lui a fait des petits bisous sur le nez. Ils se sont reconnus. Il a pleuré quand il nous a revus.
Extrait d'un reportage diffusé en 1988 sur France Inter. Notre invitée, la chercheuse en éthologie Jessica Serra, vient de publier Dans la tête d'un chat aux éditions Humaine Science. Alors l'histoire que l'on vient d'entendre, hein, ce chat Gribouille qui parcourt 1000 kilomètres pour retrouver la maison de ses propriétaires, elle vous semble exceptionnelle ou vous en connaissez d'autres de ce type, Jessica Serra?
On m'en a rapporté beaucoup d'autres en fait. Hein. On a beaucoup d'histoires de ce type où on raconte que par exemple des propriétaires qui partent en vacances et qui égarent malencontreusement leur animal, vont se mettre à le chercher, à ne pas le trouver, et puis rentrent désespérés chez eux à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres, et que ce chat va réapparaître un jour, alors ça peut prendre des semaines, des mois, souvent dans un piteux état, comme le décrit dans le témoignage la dame, ce qui laisse effectivement à penser qu'il n'a pas été ramené par une voiture, parce que ça pourrait être un concours de circonstances, aussi se dire une pure coïncidence, ça peut arriver, mais c'est souvent des chats qui ont les coussinets notamment abîmés, qui montrent qu'ils ont marché, qui sont amaigris, qui sont dans un état physique assez lamentable.
Mais alors qu'est-ce que ça nous dit? Que savent les scientifiques du sens de l'orientation des chats, de leur capacité? Parce qu'on se dit, nous-mêmes, sans outils particuliers, on serait incapable de retrouver à 1000 kilomètres un lieu dont on est parti.
Alors, vous savez, j'ai travaillé longuement sur le tracking GPS de chats et j'aurais adoré pouvoir traquer des chats qui, comme ça, s'égarent à des milliers de kilomètres et qui reviennent chez eux. Mais bon, point de vue éthique,
oui, c'est ça.
Ça se défend pas. Donc, on peut émettre, par contre, un tas d'hypothèses sur leur capacité d'orientation qui nous paraissent extraordinaires. Mais quand on regarde au sein du règne animal les capacités d'orientation des autres animaux, notamment les espèces migratrices hein, qui vont parcourir des milliers de kilomètres et on se dit mais qu'est-ce qui guide ces espèces-là dans leurs déplacements? Et en réalité la science s'est intéressée à ces phénomènes très tôt quand même, enfin les éthologues, ils ont regardé un petit peu comment les animaux s'orientaient dans le temps et dans l'espace. En premier lieu, ils ont regardé ce qui se passait chez les oiseaux migrateurs, par exemple, et puis on est allé voir aussi ce qui se passait chez le chat. Alors, chez le chat, pour des distances courtes, c'est-à-dire quand votre chat va faire le tour de votre jardin, puis s'éloigne probablement, même, il y a des chats qui parcourent des dizaines de kilomètres, hein, quand même, dans une journée, on sait qu'il va se créer une carte mentale, une représentation spatiale de son parcours, de son trajet, sur des indices visuels et olfactifs. On sait même qu'il est capable d'enregistrer ses propres déplacements dans sa tête, c'est-à-dire de rejouer un peu les séquences et les trajectoires. Sur des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres, forcément, ça nous interpelle. Et là, j'ai mis une hypothèse qui me semble probable à la vue de tout ce qu'on connaît chez les autres animaux. C'est ce qu'on appelle la magnétoréception. Alors, dit comme ça, on a l'impression donc qu'on est dans les X-Men et que on ne touche plus du tout à la science. Or, la détection du champ magnétique terrestre, c'est quelque chose de très, très commun chez les animaux. Et beaucoup d'animaux orientent leur déplacement grâce à cette détection. Et donc, il est probable que le chat utilise, en plus de ces indices olfactifs et visuels dont on a parlé, le champ magnétique pour s'orienter et éventuellement rentrer jusqu'à chez lui. En tout cas, c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse, ça n'a pas été démontré à ce jour.
Hein. Chez le chat, non. Par contre, on a quelques études, non pas sur les capacités d'orientation, mais chez le chien, qui montrent que le chien, par exemple, est capable de trouver un aimant dans une boîte, donc de détecter le champ magnétique. Et il y a même une étude scientifique un peu plus insolite qui montre que le chien, par exemple, lorsqu'il fait ses besoins, il oriente son corps en fonction du champ magnétique terrestre.
Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'intelligence du chat? Les expériences, vous le dites, sont beaucoup moins nombreuses que pour le cas des chiens, parce que ce sont des animaux beaucoup plus difficiles à tester. Finalement, les tests à mettre en place sont plus compliqués du fait justement de leur autonomie. Qu'est-ce qu'il y a comme différence fondamentale entre l'intelligence d'un chat et celle d'un chien, par exemple?
Alors, je dirais que c'est pas tant des différences d'intelligence, ça va être des différences dans les facultés d'attention. Le chien a des facultés d'attention envers l'être humain qui sont extrêmement développées du fait de sa domestication et du fait de la sélection qu'a opéré l'être humain sur le chien. En ce qui concerne le chat, on n'a pas eu cette sélection pour des facultés d'attention. Donc, effectivement, le chat n'a pas les mêmes facultés d'attention envers l'être humain, ce qui n'en fait pas un être cognitivement moins bon. Ouais. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire de ne jamais comparer l'intelligence des animaux au sein du règne animal, parce qu'on n'est pas là sur une échelle de gradation où finalement on aurait un animal plus intelligent qu'un autre, et bien de se dire que l'intelligence elle est plurielle. L'évolution a permis d'emprunter des canaux très différents et l'intelligence se manifeste sous différentes formes. Et si vous voulez, sur un champ cognitif, vous allez avoir le chien qui est très intelligent, le chat qui paraît ne pas bien performer, mais sur une autre sphère cognitive, c'est l'inverse qui va se produire.
Et ne pas perdre de vue aussi, vous le dites, que ce sont les humains qui mettent au point les tests d'intelligence, souvent en comparant l'intelligence du reste du règne animal à la leur. Donc on est un peu jugé parti dans cette histoire. C'est facile de bien répondre à des tests qu'on a nous-mêmes inventés.
Tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, quand j'ai commencé à étudier l'éthologie, c'est un des premiers enseignements qu'on nous donne, éviter à tout prix l'anthropomorphisme, prêter des intentions humaines aux animaux. C'est un enseignement que je garde en tête, même s'il ne faut pas tomber dans les travers de France Deval parle très bien de l'anthropodénie, c'est-à-dire nier aussi l'existence, par exemple, d'émotions chez l'animal. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Mais surtout, l'éthologue se doit d'ajuster ses tests comportementaux en fonction de l'espèce qu'il a en face de lui. On a trop tendance à se dire, ben voilà, j'ai trouvé un test qui fonctionne super bien avec 3-4 espèces. Chez celle-ci, ça fonctionne pas. Donc, c'est qu'il n'est pas capable. Alors que parfois, c'est tout simplement le test qui n'est pas adéquate à l'espèce que l'on étudie.
Alors, des exemples de tests qui sont mis en place pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau d'un chat. Déjà, sur sa mémoire, vous racontez des expérimentations assez simples avec plusieurs gamelles de couleurs différentes.
Oui, alors on a voulu savoir si finalement le chat avait différents types de mémoire comme chez l'être humain. Hein. On a, pour simplifier, trois grands types de mémoire. Ce qu'on appelle la mémoire à court terme, qui est une mémoire chez l'être humain, par exemple, qui va vous permettre de retenir un numéro de téléphone dans la minute qui suit. Vous l'avez oublié, mais sur le moment, vous êtes capable de le renoter sur une feuille. Ça, c'est la mémoire à court terme. Elle existe chez le chat. On a ce qu'on appelle aussi la mémoire épisodique. C'est le où, quand, comment. Et ça, on avait des doutes sur le fait de cette existence de cette mémoire-là chez le chat. Donc, il y a des chercheurs qui ont présenté des bols de différentes couleurs à des chats, avec tous étaient remplis d'aliments, mais le chat n'était autorisé à manger que dans deux de ses gamelles. Donc le chat vient manger dans les deux gamelles, puis 15 minutes après, on enlève le chat, on referme les gamelles pour pas qu'il voit s'il reste ou pas de la nourriture, on interverse les couleurs et donc l'ordre des gamelles, et on repropose au chat d'aller manger, mais il a le choix seulement de nouveau d'accéder qu'à deux de ses quatre gamelles. Et là, le chat va choisir systématiquement les gamelles dans lesquelles il n'a pas mangé. Ce qui signifie qu'il bénéficie de la mémoire épisodique. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Parce qu'en fait, il va dans celles dans lesquelles il n'a pas mangé parce qu'il suppose qu'il y a davantage de nourriture là où il n'est pas allé.
Bah parce qu'il sait tout simplement qu'il n'y a plus de nourriture dans là où il est déjà allé. Ouais. Et donc, il a retenu le « où ». Le quand et le comment, et c'est ça qui définit la mémoire épisodique. Et puis enfin, on a la mémoire à long terme qui permet d'ancrer les souvenirs dans le passé et qui va construire l'individualité de l'être, en fait.
Les chats ont-ils conscience d'eux-mêmes? C'est une question qui occupe les scientifiques, c'est toujours difficile de tester ce genre de questionnement.
Alors la conscience de soi, ça a vraiment occupé de tout temps les éthologues, parce que c'était une question phare il y a quelques temps encore. Il y a un test qui est très célèbre qui a été utilisé, qui est le test du miroir, où l'on a montré qu'effectivement les grands primates, les dauphins, les éléphants, les raimentas, on a même les cochons qui réussissent très très bien ce test du miroir, qui consiste à dire que si l'animal est capable de reconnaître son reflet dans un miroir, c'est qu'il a une conscience de lui-même, c'est qu'il a une individualité, donc qu'il sait qu'il existe.
Et souvent on lui met une petite marque sur la gueule, et du coup s'il essaye de l'enlever,
c'est qu'il a compris. Ces tests-là étaient designés de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on anesthésiait par exemple un chimpanzé, on lui mettait une marque de peinture rouge, alors je faisais pas partie de ces expériences-là, on réveillait l'animal, on le positionnait devant le miroir et on voyait tout de suite l'animal interloqué par cette tache de peinture qui cherchait immédiatement à l'enlever. Et là, on se disait, il reconnaît son reflet, il sait que c'est lui, donc il a une conscience de lui-même. Et quand on a fait passer ce test du miroir au chat, ça n'a pas fonctionné. Les tests n'étaient pas concluants. Maintenant, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le chat, contrairement par exemple aux primates, est une espèce qui voit très très bien, mais qui, lorsqu'il identifie des congénères, par exemple, va d'abord se baser sur des indices olfactifs et non des indices visuels. Donc, on peut imaginer que le chat, en termes de reconnaissance de soi et reconnaissance des autres, il va tout de suite utiliser cette sensorialité olfactive en premier lieu, et que le test du miroir est probablement pas le test le plus adapté. Et au-delà de ça, on sait aujourd'hui que le chat, s'il peut être familiarisé à un miroir suffisamment longtemps, ne va plus du tout se mettre à attaquer le miroir, etc. Tendrait à prouver qu'il reconnaît lui aussi son reflet dans le miroir.
Il y a un autre exemple que vous donnez, qui n'est pas une recherche scientifique, mais qui va dans le sens, effectivement, d'une reconnaissance visuelle. Ça a été fait avec un téléphone portable. Donc, pour décrire la scène, c'est un chat qui est sur les genoux de son maître. Il regarde leur propre image dans un écran de téléphone portable qui applique un filtre, donc il colle artificiellement sur la tête de son maître des oreilles et un peu des traits de chat. Et on voit la réaction du chat qui manifestement est perturbé par ce qui se passe.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est que, c'est une vidéo à visée humoristique. Il y a sur Internet, comme quoi les éthologues trouvent des sources d'observation un peu de partout. Mais celle-ci m'a particulièrement interpellée parce que lorsqu'on la regarde, cette vidéo, effectivement, on sourit en voyant ces chats complètement interloqués par ce qui se passe. Mais elle signifie plusieurs choses, cette vidéo. Elle signifie déjà que quand le chat se regarde dans le smartphone de son propriétaire, finalement, il n'a pas beaucoup de réactions parce qu'il voit sa propre image. C'est certainement d'ailleurs des chats qui ont été familiarisés à leur propre image. Et puis ensuite, le visage humain, en plus c'est très très réaliste, je ne sais pas si vous les connaissez bien ces applications, mais c'est vraiment très réaliste. Le visage se métamorphose en chat et on voit ces chats qui sont complètement stupéfaits. Il y en a qui partent en courant, d'autres qui font des yeux sans pour autant être anthropomorphique, mais encore une fois, on voit un étonnement énorme chez cet animal. Et ça signifie quoi? Ça signifie que l'animal a compris qu'il y avait une discordance entre le reflet de son maître dans le miroir et ce qu'il était en train d'entrevoir. Donc, non seulement il reconnaît son propre reflet, mais probablement le reflet de son maître aussi.
Ah, le lien des chats avec leur maître, il est intéressant. Une femme de lettres qui avait une passion pour les chats, c'est Colette. Les chats ont inspiré de très beaux textes à Colette et il lui arrive d'évoquer en interview les liens très forts qu'elle avait noués avec certains d'entre eux, comme ici, en 1948, sur la RTF.
C'est une magnifique créature. Je l'avais ramassée là-bas, à la campagne, en Franche-Comté. Je l'avais ramassée proprement mourante de faim, et puis je l'avais rendue très bien nourrie et très belle. Un hiver, j'ai été forcée de la confier à ma mère, parce que moi-même, je me livrais à jouer la pantomime, et même quelquefois la comédie, ma foi, dans les théâtres de province. En cours de tournée, je suis revenue chez ma mère, j'ai retrouvé la chatte que je n'avais pas vue depuis près d'un an. Alors la chatte m'a reconnue, et elle m'a malheureusement réadoptée, avec passion, avec fidélité. Elle avait à ce moment-là un petit chat de 8 à 9 jours, qui n'avait pas encore les yeux ouverts. Et puis il a fallu que je reprenne ma tournée et je suis reparti le lendemain. Alors au bout de quelque temps, j'ai reçu une lettre de ma mère qui me disait que la chatte, malgré une grande couche de neige, elle était partie me chercher partout où elle pouvait, dans le village et dans les jardins, et sans doute très loin, elle était partie me rechercher. Et puis elle ne m'avait pas trouvé. Et elle a laissé mourir son petit, ce qui est rare chez une chatte. Mais elle m'avait préféré à son petit chat et c'est une chose que, heureusement, je n'ai pas vue deux fois dans mon existence ni dans celle de mes chattes.
Colette, en 1948, une chatte qui délaisse son petit pour partir à la recherche d'un humain. Ça interroge sur la façon dont un chat perçoit son propriétaire, Jessica Serra. Comment les chats considèrent-ils leur maître, ou en tout cas l'humain qui s'est occupé d'eux?
Alors, ce qu'on sait déjà, parce qu'il y a tout un tas de croyances populaires sur le chat et également le chat est décrit comme un être très indépendant, solitaire, beaucoup de propriétaires doutent d'un réel attachement du chat envers son maître. Or, on a des expériences scientifiques, dont une extrêmement récente menée par une chercheuse américaine, qui montre que le chat est réellement attaché à son maître. Alors, tous ne sont pas de la même manière, le degré d'attachement varie probablement en fonction de la relation, mais on peut plus douter de cet attachement réel qui caractérise la relation homme-animal. dans le cas de Nomatou, on a beaucoup de choses, j'ai vu, qui ont circulé dans la presse.
Oui. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, la presse s'est fait l'écho, mais en déformant largement une publication scientifique, en présentant les chats comme des sortes de psychopathes qui n'avaient qu'une envie, c'était de prendre le dessus, de dominer, voire de tuer leurs propriétaires. Et vous revenez sur cette étude en disant qu'elle ne disait pas ça du tout.
Oui, alors c'est marrant comme parfois la presse peut transformer... En fait, c'est une étude qui était sur la personnalité des chats, justement. En plus, personnalité évaluée par des êtres humains, en fait. Donc, les êtres humains évaluaient la personnalité de plusieurs espèces animales. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les traits dominants de la personnalité, en fait, sont similaires entre le lion et le chat. Ça signifie aucunement, si vous voulez, que le chat est un lion, en aucune façon, mais simplement qu'il y a des grands traits comme ça qui se dessinent. Et puis, finalement, ça nous paraît assez logique au vu de leur évolution, en fait, hein, de leur lien avec les autres félins. Pour revenir à la question de comment nous considère-t-il, là encore, certains entrevoient, parlent du fait que l'être humain pourrait être une mère pour le chat. Alors c'est vrai que d'un point de vue affectif, j'en parle longuement dans mon livre, les caractéristiques juvéniles que présentent nos chats domestiques aujourd'hui, à savoir le ronronnement, le pétrissage, vous savez quand votre chat vous pétrit avec le ventre ou les jambes avec ses pattes, le miaulement, tout ça ce sont des comportements juvéniles exprimés à l'âge adulte qui n'existent pas chez le chat adulte sauvage. Donc qui sont vraiment des caractéristiques du chat d'aujourd'hui et ils sont un mode de communication envers l'être humain et souvent qui vont permettre de mettre en place ce lien d'attachement. La manière dont le chat nous perçoit, je pense que alors elle est très différente de la manière dont le chien nous perçoit. Déjà, le chien, si vous voulez, l'être humain est pour lui le centre de son univers. Tout gravite autour de l'être humain. C'est pour ça qu'on parle de la fidélité mythique du chien. Alors que le chat va pouvoir être profondément rattaché à son maître, mais il l'intègre dans sa sphère sociale. Et pour autant, il ne le considère pas comme un autre chat. Parce que j'ai lu ça aussi, finalement, il nous considérait comme un gros chat débile. Ça, vous le verrez dans toute la presse. Alors, débile...
Peut-être, mais pas un chat.
Voilà. Effectivement, je pense qu'il y a des difficultés de compréhension. Parfois, le chat doit se dire, mais pourquoi il comprend pas ça? Alors, il ne doit pas se le dire en ces termes-là. Mais le chat attend effectivement de son être humain qu'il le comprenne, et c'est pas toujours le cas. Et effectivement, cette relation qui est en train de se nouer, oui, je pense qu'il est capable tout à fait de catégoriser que l'homme n'est pas un chat. Donc il nous traite dans une catégorie à part, mais il est capable de s'attacher à nous aussi.
Merci Jessica Serra. Je rappelle le titre de votre ouvrage pour en savoir plus, Dans la tête d'un chat, aux éditions Humaine Science. Un grand merci à vous.
Merci à vous aussi.
En deuxième heure, nous partirons avec le médecin anthropologue Philippe Charlier à la découverte de rituels pratiqués sur les 5 continents dans des cultures très différentes. Et dans un instant, dans la revue d'actu de la semaine, nous parlerons entre autres des séismes qui secouent la planète Mars et de la mobilisation des chercheurs du monde entier face au coronavirus Covid-19.
Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Je sais qu'il faudra faire encore des détours et voir passer encore des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez moi.
Chez moi le soleil est de plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous ce silence?
Mes habits ont parfois des traces de poussière et le parfum fané des amours passagères qui m'ont rendu la solitude plus légère. À l'aube de mes nuits blanches et solitaires.
Et toi mon bel amour, dis-moi s'il y a des hommes qui t'ont rendu la vie un peu moins monotone, qui t'aident à supporter l'hiver après l'automne et les silences obstinés du téléphone.
Nous nous raconterons nos triomphes, nos fêtes, mais comment s'avouer toutes nos défaites, l'angoisse qui nous tient, l'angoisse qui nous guette et s'accroche à chaque pensée, à chaque geste.
Je sais que tu seras au bout de mes voyages.
Je sais que tu viendras malgré tous les détours.
Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour
dans un monde réinventé.
C'était La Ligne Droite, Kerenan et Étienne Daho.
France Inter, du vent dans les synapses.
Et avec nous aujourd'hui pour la revue d'actu de la semaine, Mathieu Novak de Science et Avenir et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour à vous.
Bonjour Daniel.
On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que certains pays sont d'ores et déjà beaucoup plus même touchés que nous. Ça suppose de s'organiser à chaque étape sans doute différemment. Et on va devoir l'affronter au mieux.
L'épidémie est devant nous. Voici ce que disait le président de la République jeudi dernier lors d'une visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sophie, cette semaine, un cap a été franchi pour la propagation du virus Covid-19. Peut-on maintenant parler de pandémie ?
Le mot n'est pas officiellement lancé par l'Organisation mondiale de la santé, mais c'est vrai que tous les continents sont maintenant touchés, 50 pays qui connaissent des cas et puis partout de nouveaux foyers qui surgissent. Au total, désormais, près de 85 000 personnes dans le monde ont été infectées, 2 800 sont mortes. Il y a même plus de cas hors de Chine qu'en Chine continentale. Et alors, si l'OMS donc se refuse à employer le terme, c'est peut-être pour éviter d'amplifier la peur. En tout cas, en France, on utilise maintenant les mots de pré-pandémie.
Mais aujourd'hui, on ne sait pas très bien où on en est. On a franchi ce cap d'avoir des cas sur tous les continents, mais on a une sorte d'épidémie à bas bruit. Quand on cherche, on trouve quelque chose. C'est ce qui s'est passé cette semaine dans l'Oise. Mmh. Et on se pose plein de questions, comme par exemple celle des enfants, qui semblent être porteurs, mais sans développer de symptômes. Donc, généralement, on modélise en regardant les grands axes de transport, mais aussi, maintenant, il faut regarder les classes d'âge. Donc, ça rend cette modélisation très compliquée.
Alors, une question revient beaucoup de la part des auditeurs. Pourquoi parle-t-on autant de ce virus, Covid-19, alors que celui de la grippe saisonnière tue chaque année? L'OMS a rappelé que la grippe saisonnière fait 60 000 morts par an, rien qu'en Europe.
Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. La première, c'est qu'on est vraiment face à l'inconnu. On parle de la grippe, mais la grippe, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on l'étudie. N'importe quel médecin pourra vous dire aujourd'hui sur la grippe de cette année, qui tue assez peu, combien en gros il va y avoir d'hospitalisations, qu'on va avoir un nombre de cas qui va diminuer en mars-avril, quels moyens il faut mettre en œuvre pour contenir l'épidémie. Ici, on est face à l'inconnu. On a un virus qui a jamais touché l'humain, donc face auquel personne n'est immunisé, et on ne sait pas encore sa transmissibilité. Normalement, ce sont des virus saisonniers, donc ils devraient disparaître pendant l'été, mais personne ne peut l'affirmer.
Oui. Donc, d'un point de vue, on n'est même pas sûr de ça, en fait.
Non.
Et le taux de mortalité du virus est supérieur
à la grippe.
À la grippe,
oui. Cette année, la grippe, on est à moins de 1%. Ici, on en serait à peu près à un taux de mortalité, mais ça reste très préliminaire comme chiffre, environ 1% chez les femmes, 2% chez les hommes, et ça se concentre surtout sur des individus qui ont des problèmes, notamment des problèmes cardiaques, des individus âgés et fragiles.
Sophie, face à cette flambée épidémique, comment la recherche s'organise-t-elle? Quelles sont les principales questions auxquelles les chercheurs doivent répondre en priorité?
En préliminaire, disons que ce sont d'abord évidemment les équipes chinoises qui sont sur le pont, ce qui est tout à fait normal, d'autant que la recherche chinoise a monté et monté en puissance de façon phénoménale depuis 10 ans. Donc on continue de travailler sur la propagation, on veut pouvoir prédire où seront les prochains foyers, si telle ou telle circonstance sont favorables ou défavorables au virus, et Mathieu vient d'expliquer toutes les inconnues qui sont encore là. On cherche bien sûr un traitement, on teste dans beaucoup de pays dans le monde les antiviraux qui existent déjà. Le problème, c'est que sur les virus émergents, comme ce Covid-19, on sait qu'ils résistent aux antiviraux les plus communs. Alors, on poursuit donc les recherches en essayant de mettre au point un nouveau médicament et puis bien sûr de fabriquer un vaccin.
On sait où on en est sur le vaccin?
Il y a environ une dizaine d'équipes ou de laboratoires privés qui travaillent sur la mise au point d'un vaccin dans le monde, mais il faut rappeler qu'il va falloir plusieurs mois pour aboutir et toutes les annonces un petit peu exceptionnelles, comme récemment 42 jours, un laboratoire a mis au point un vaccin.
Mais ça, c'est farfelu.
Mais c'est foutaise parce qu'en fait, on prend un vaccin qui existe déjà, par exemple le vaccin contre la rougeole, et puis on va essayer de le modifier pour faire en sorte qu'il s'attaque à ce virus. Mais une fois que vous avez cette première brique qui effectivement prend trois semaines environ. Et bien après, les étapes suivantes, le test sur la souris, la non-toxicité, éventuellement sur des animaux plus proches de l'humain, comme les primates, puis un démarrage d'un essai clinique. Donc au plus court, c'est 8 mois, et plutôt, si vous voulez, un an et demi même.
Si le vaccin n'est pas pour tout de suite, est-ce que des traitements peuvent être mis au point plus rapidement, Mathieu Novak?
Oui, là c'est une course contre la montre, et pour gagner du temps, que font les chercheurs dans tous les laboratoires dans le monde entier? Ils testent des molécules, des médicaments qui sont déjà sur le marché. Alors ce sont des antiviraux, il y a large spectre, ce sont aussi des antibiotiques. Et là aujourd'hui, il y a eu une recension européenne, il y a à peu près 120 molécules qui sont testées, qui existent déjà, dont 31 candidats sérieux qui semblent avoir un effet potentiel contre ce virus, et en particulier la chloroquine dont on a parlé cette semaine.
Oui, alors ça, Sophie Becherel, effectivement, c'est un grand pont de la virologie qui a annoncé ça, Didier Raoult, mais ça a été peut-être un peu survendu.
Alors, pourquoi il y a débat, on va dire, hein. En fait, la chloroquine, sont les Chinois qui, en fait, l'utilisent. Ils ont lancé des essais cliniques dans 10 hôpitaux, connaissant son efficacité sur les cellules in vitro. Et ça, c'est une connaissance acquise depuis une dizaine d'années. Alors, par les chercheurs du monde entier.
La chloroquine, c'est avant tout un médicament,
qu'on utilise contre le paludisme. Voilà. Vieille molécule qui coûte pas cher. Et donc, pour les Chinois, mercredi, ils ont annoncé que la chloroquine fonctionnait. Mais encore une fois, c'est le début d'un essai clinique. Et chez les malades à qui ils la donnent, ils disent qu'il y a une avancée, il y a un mieux. Simplement, cette annonce est très imprécise. On ne dit pas quel est le dosage, on ne dit pas dans quelle mesure ces personnes vont mieux. Et du coup, la fin de l'essai clinique n'étant pas terminée, une partie des chercheurs français, dont ne fait pas partie Didier Raoult, dit qu'il est prématuré de crier victoire. Mais comme je vous le disais, les Chinois font des études partout. Ils ont déposé depuis le début de cette épidémie 257 demandes d'essais cliniques, absolument sur tous les domaines. Et parfois, ça n'est pas une vraie publication scientifique dans un journal sérieux, c'est une annonce, un feuillet, mais comme c'est validé par les autorités politiques du pays.
Pour conclure,
un dernier mot sur l'importance de financer la recherche sur le long terme, parce que les Français se sont remis dans la course. Il faut savoir qu'en 2017, la France a cessé de financer les équipes qui travaillaient sur le coronavirus. Et ça n'est que depuis mi-février qu'on a relancé des fonds, des financements pour pouvoir financer ces équipes. C'est vraiment très dommage.
On s'envole pour un endroit où l'on est sûr qu'il n'y a pas de coronavirus. Enregistrement d'un séisme martien par l'atterrisseur InSight, Mathieu Novak, en début de semaine, plusieurs articles ont été publiés dans la revue Nature annonçant les premiers résultats de cette sonde InSight un peu plus d'un an après son arrivée sur la planète Mars.
Et oui, et c'était la première fois qu'on a apporté un sismomètre sur une autre planète que la Terre. Et ce qui a permis, comme on vient de l'entendre, d'entendre pour la première fois des secousses ailleurs que sur la Terre. Alors c'est pas juste pour le plaisir de les entendre, c'est qu'il faut se rappeler que étudier les séismes, c'est ce qui a permis, notamment au XXe siècle, d'étudier la structure terrestre. On fait pas des trous, on fore pas jusqu'au cœur du noyau pour savoir comment est faite couche par couche une planète. Ce qu'on fait, c'est qu'on se sert de façon indirecte de séismes, parce que quand une onde sismique arrive sur une limite entre deux couches, elle va changer de nature et de direction. Donc c'est ce qu'on cherche à observer ici sur Mars. Alors dans le détail, on a eu trois types de secousses. D'abord des ondes très faibles dues à des tourbillons atmosphériques qui sont un peu comme des ventouses qui passent sur le sol et ça donne l'élasticité de la couche la plus superficielle. Donc là, on a pu voir qu'il y a du sable très fin sur 2 à 3 mètres et qu'en dessous, il y a des roches. Ensuite, on a des ondes de haute fréquence mais de faible intensité dont l'origine est mystérieuse. On en a plus en plus depuis qu'on les enregistre. Alors peut-être que c'est lié au fait que c'est le début de l'été et que du coup, avec la chaleur, il y a de plus en plus de craquements et de chutes de pierres. On va bientôt passer à l'hiver, si c'est le cas, ça va diminuer. Mais surtout, on a enregistré des signaux de basse fréquence, mais de haute intensité, une fois par semaine.
Et ce sont de véritables ondes sismiques, comme sur la Terre ?
Eh ben, c'est bien possible, parce que leur origine semble être profonde, peut-être quelque chose comme 50 km sur la surface. On en a eu deux gros, de magnitude 3,6, dont on a su localiser l'origine, l'épicentre, c'est une zone de fissure à 1600 km de la sonde. Et leur analyse a permis de donner des résultats sur les premiers kilomètres de la croûte. Alors d'abord, on a pu préciser la nature. La nature, elle est à mi-chemin entre la croûte de la Terre, qui est très humide, et celle de la Lune, qui elle est très sèche. D'un point de vue géologique, ça ressemble un peu au Massif central, au Massif armoricain ou aux Vosges. Mais surtout, on a vu à 10 km une discontinuité. Les ondes sont réfléchies et changent de nature à ce moment-là. Ce qui veut dire que la croûte, elle est en fait en deux parties. Philippe Lyonnais, le patron de la mission, avait dit que ça n'avait été jamais envisagé. on a une partie superficielle de la croûte qui est altérée. Pourquoi ? Comment ? On l'ignore complètement. Ce qui est intéressant avec ces résultats, c'est qu'ils apportent ainsi leur lot de mystères.
Il y a encore des questions.
Ah oui, je retiens cette croûte martienne qui ressemble au massif vosgien. Mathieu, de nouvelles analyses menées autour du tombeau de Toutankhamon et le mystère se réveille.
Ouais, c'est très excitant, la piste des chambres secrètes est relancée. Rappelez-vous, en 2015, Nicholas Reeves, à l'université d'Arizona, il dit que sur les murs peints de la chambre funéraire de Toutankhamon, il y a des fissures et qu'elles dissimuleraient peut-être un accès vers une chambre secrète et pourquoi pas la tombe de Nefertiti. Il y a eu des campagnes de thermographie infrarouge, de géoradar, 3 campagnes. La première était prometteuse, mais les deuxième, troisième n'ont rien trouvé, ça a été suspendu. Mais une équipe britannique de Terra Vision Exploration a reçu l'autorisation d'utiliser une autre technique, le radar à pénétration de sol. Et là, à un autre endroit, à côté du tombeau, ils ont détecté des anomalies. Ils décrivent ça comme un espace du type d'un couloir, de la même profondeur, 2 mètres de hauteur, 10 mètres de long. Comme c'est perpendiculaire à l'axe de Toutankhamon, peut-être qu'il y aurait une connexion, sait-on jamais. Mmh. L'ancien ministre des Antiquités, Zahi Wawa, s'est dit tout de suite que cette technique n'a jamais permis de découvrir quoi que ce soit. Eh bien, si c'était une première, ce serait une belle première.
Sophie, Tara, de retour à Paris.
Oui, vous le savez peut-être, Radio France est partenaire de Tara qui vient à Paris pour la 3e fois. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à Pâques, au 13 avril, la goélette scientifique qui revient d'une expédition sur les fleuves européens en quête du plastique, des microplastiques qu'il y a dans les fleuves, vous propose d'une part une expédition sur toutes les dernières expéditions de ce bateau, mais aussi éventuellement de fouler le pont de la goélette. Voilà, beaucoup de scolaires accueillis pour tout savoir sur l'océan qu'a sillonné le bateau.
Et je signale aussi que les 6 et 7 mars prochains se tiendra à Nice la 5e édition de Neuroplanète, 2 jours de conférences passionnantes sur le cerveau. Quelques exemples de thèmes abordés, l'effet placebo, la méditation, le cas des cerveaux hors normes des personnes à haut potentiel ou encore les liens entre folie et génie. Ça se passe au Centre universitaire méditerranéen de Nice, vendredi et samedi prochain. Et nous allons mettre un lien vers le programme sur la page du Vent dans les Synapses sur franceinter.fr. Mathieu Novak, à découvrir dans Science et Avenir.
Notre numéro de Mars vient de sortir et on a tous les secrets pour retarder le vieillissement. On a vu qu'il y a des marqueurs dans le sang à 34, 60, 78 ans qui changent. Donc il y a peut-être 3 étapes dans la vie et on essaie de creuser ça.
Merci Mathieu Novak et Sophie Becherel. Et à très bientôt. En 2e heure, nous allons partir à la découverte de rituels pratiqués dans des cultures très différentes sur les 5 continents avec le médecin anthropologue Philippe Charlier.
Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Everybody needs some love and so do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Get out of your closet and put on your purple shoes. There was this girl that I once knew. Let's just say her name was Rosie, Rosie Blue. Rosie was pretty, although she barely smiled. Her eyes seemed dark, and I always wondered. Rosie never spoke much about her home. She said she loved poetry, she'd even write her own. I met Rosie in Morocco, Agadir. How I wish that Rosie was still here. Then I would say, Rosie, Rosie, don't be so sad. Rosie, don't you know life ain't all that bad. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Everybody needs some love. So do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Get out of your closet and put on your purple shoes. I wish I knew that Rosie was depressed. She couldn't find love, cause her inside was a mess. In this crazy world,
we're living in. There's too many rosy blues.
C'était Rosy Blue de Ayo. Merci à Louis Audebert et Fabrice Desmaz qui sont à la technique avec nous aujourd'hui. Juste après le flash, on s'intéresse au rituel avec le médecin anthropologue Philippe Charlier. À tout de suite.